Le peloton RMC.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans le peloton RMC. Prenez place avec nous. Eh oui, bah là, on ne sait plus trop où on est parce qu'on s'est rapproché tellement du Tour de France que l'émotion nous envahit. On est à moins de 2 semaines et l'équipe de l'Intégral Tour est en train de se préparer. Tout simplement, il y a les stages en altitude. Bon, il y a les stages sous haute chaleur pour préparer le Tour. C'est bien. Ça permet d'arriver à son pic de forme, n'est-ce pas, Christophe Cessieux? Bonjour.
Ah ben oui, moi je m'entraîne tous les jours. Grande chaleur avec des t-shirts noirs pour faire du vélo comme Poggy quoi.
Ah mais affûté comme Chris Froome à la grande époque. Là, incroyable. Ah non mais ceux qui vont croiser Chris sur le Tour, ils vont pas le reconnaître. Hein, je vous le dis tout de suite, ça va être incroyable. Notre leader puncher, Jérôme Pinot est là. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut Christophe. Il me tarde de recroiser Christophe parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, il n'était pas affûté comme Chris Froome. Il a dû se passer quelque chose.
J'ai tout changé là.
Alors qu'il faut le dire à nos auditeurs et auditrices, Jérôme cette année.
Non mais c'est pour ça qu'il fait le malin là, c'est parce que cette année il s'est remis au vélo, il est amoureux, donc il arrête de faire la fête et tout va bien quoi. D'accord. Ah ben oui, ben bien sûr.
Étalons la vie privée tout de suite sur le table. Voilà. Bah, c'est un avant-goût des 3 semaines de Tour de France qui vous attend, vous savez, avec Christophe Cessieux aux commandes.
Vous saurez toute la vie de Jérôme, de Georges Quirino, de Pierre Kutchet, tout ça.
Ce qui se passe sur le Tour est diffusé dans le Tour. Bonjour Pierre Kutchet.
Salut, ça va ?
Notre coureur du dimanche, Pierre. Alors, on enregistre ici, on est près du circuit de Longchamp, où peut-être de nombreux d'entre vous cyclistes viennent avec leur vélo avec le vélo de triathlon, là, le prolongateur, les roues pleines et tout ça. Il y a beaucoup de grands spécialistes qui viennent rouler, dont Pierre Kutchet.
Eh bien, j'y vais jamais.
C'est vrai ?
Je ne viens jamais à Longchamp parce que ça me stresse un peu de faire le hamster à tourner en rond autour avec des vélos qui valent tous beaucoup trop cher.
Ouais, voilà, vous nous écoutez en province.
Mais non, ça coûte jamais
nombreux.
Trop cher un vélo. Ça coûte jamais
c'est à Paris.
Allez
à Paris,
chez Jérôme, il va vous faire un prix, vous inquiétez pas.
Bien sûr,
il fait des prix.
Plus 10% pour les copains. Allez, venez.
En gros, si vous êtes cycliste à Paris, vous avez envie de rouler un peu avec votre vélo de route, c'est vrai que vous venez autour de l'hippodrome de Longchamp et là, ça va vite. Il y a des gens qui prennent ça très au sérieux.
Si t'es pas au niveau, tu te fais dégager vite.
Je préfère quand il y a un petit peu de dénivelé, un petit peu de balade, un petit peu de. Campagne.
Oui, c'est pas tout à fait le cas ici. Allez, rejoignez-nous évidemment sur Instagram, TikTok, Facebook, @lepelotonRMC pour débattre avec nous et avoir les dernières informations. Tiens, avant de commencer, je voudrais avoir une pensée, Jérôme, pour Saïd Adou, ancien coureur de l'équipe Europcar qui a disparu cette semaine dans un accident de la circulation à 43 ans. Cette émission lui est dédiée évidemment et Jérôme, c'est quelqu'un avec qui tu as couru évidemment.
Ouais, ça a été mon coéquipier, mon pote, mon collègue. Dadou était un personnage solaire qui aimait le vélo profondément. Il s'était installé dans la région marseillaise il y a quelques années. Il a été doublement vainqueur du Trobreléon. C'était un mec attachant, rigolo, un très très bon ami de Thomas Vauclair. On le salue Thomas parce qu'il en a gros sur la patate ce soir. Il est parti, on le souhaite à lui et sa famille plein de choses et on espère que... qu'ils vont se remettre, mais en tout cas c'est terrible cette disparition parce que Dadou était un grand personnage, il prenait beaucoup de place.
Et cette émission lui est dédiée. Allez les amis, on est à moins de 2 semaines du Tour, je le disais, et Tadej Pogacar a envoyé un nouveau message à la concurrence. Il est prêt plus que jamais à aller chercher une 5e grande boucle et égaler le record au Tour de Suisse. Poggi a dévoré, mais littéralement, la concurrence. Tremblay, Vingegaard, Sexas, Evenepoel et autres, Lipovic, le débat qui agite le peloton RMC aujourd'hui, c'est celui-là. Est-ce que Pogacar est plus fort que jamais, en fait ? Est-ce qu'on est face à Pogacar Prime, là, face à nous, avant le Tour de France ? Mais d'abord, comme chaque semaine, on commence par le briefing de Jérôme.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Alors Jérôme, si la France n'est pas au courant, il fait 40 degrés dehors, un petit peu partout. C'est vrai que certains font un peu tout et n'importe quoi. Ils vont rouler par exemple à la mi-journée en plein cagnard ou courir d'ailleurs. Donc on se disait que c'était peut-être important d'avoir tes conseils pour les cyclistes amateurs justement. Quand on est sous haute chaleur comme ça, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ?
Eh bien écoute, je vais déjà vous dire à toutes et à tous qu'il y a une séparation à faire, une différence à faire entre vous, les cyclistes occasionnels qui n'ont pas d'objectif, qui ont juste l'objectif de se faire plaisir. À cela, je vais vous dire, n'y allez pas. On ne va pas rouler quand il fait une température pareille. On peut y aller un peu le matin, un peu l'après-midi, toute fin de journée. Mais il n'y a pas lieu d'aller faire un entraînement et d'aller rouler à vélo avec cette température-là. En revanche, pour les gens qui ont l'occasion de rouler plus régulièrement, eh bien, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Celle notamment d'aller rouler avant 9h, être rentré autour de 9h30-10h quand cela est possible, parce qu'après, il fait trop chaud et votre corps va souffrir. Il faut aussi adapter certaines choses qui sont très, très essentielles. Faire du vélo par plus de 35 degrés, c'est 4 bidons d'eau par heure. C'est minimum. C'est des sorties qui doivent être autour de 2h, 2h30, pas plus. Dans la zone 2, la fameuse zone 2 qui fait de Pogacar un héros. Bah, vous roulez dans la zone 2 et pas plus haut, parce que votre corps va d'abord lutter contre la chaleur et votre cardio va monter. Oubliez vos watts, oubliez votre cardio, oubliez vos performances et vos fameux 30 de moyenne pour vous faire passer pour un champion sur Strava.
Oubliez
vos
segments Strava.
On oublie, exactement. On roule tranquille, on roule dans la zone easy, on fait de l'endurance parce que le corps a besoin d'abord de s'adapter à cette chaleur. Et puis, il faut ne pas hésiter à mettre des électrolytes dans le bidon, des boissons à base de sel, parce que vous allez énormément transpirer, énormément perdre de sel et de sels minéraux. Et en rentrant de l'entraînement, ne faites pas comme Pierre Cochette, ne vous jetez pas sur la première binouze bien fraîche du frigo.
Ah,
l'alcool déshydrate et
avec modération, Pierre.
Exactement, l'alcool déshydrate et c'est très très mauvais. Il faut surtout se dire que quand vous avez roulé 2h, 2h30 sous 35, 40 degrés, il faut boire 2,5 litres de flotte dans les 2 heures qui suivent la sortie. D'abord pour commencer, ensuite se mettre dans un endroit plutôt à l'abri ou plutôt à l'ombre, essayer de trouver un endroit où on peut ventiler et revenir à une température du corps normale, et puis surtout bien s'alimenter. On pense beaucoup à boire quand il fait chaud, mais il faut surtout s'alimenter, parce que ça peut la déshydratation aussi bien que la fringale en par grosse chaleur peut vous provoquer des gros problèmes au niveau du système cardiovasculaire.
Et
c'est ça qu'il faut surveiller.
Jérôme,
il faut manger barre de céréales.
On
passe en
voyage, pas là.
Ah non, bien sûr, mais une salade de pâtes bien fraîche, une salade avec un peu de blé, un peu de riz, sucre lent, et puis tout de suite manger après l'effort, se recharger en glycogène, même si c'est pas ce qu'on a le plus envie quand on rentre, quand il fait chaud. Il faut ne pas hésiter à manger. Encore une fois, il y a vraiment ces règles, elles sont simples. C'est bien s'hydrater, respecter l'horaire et rouler à faible intensité. Ça, c'est les trois règles principales et primordiales. Parce que, évidemment, ça peut provoquer des vrais problèmes de santé. Et évidemment, on ne peut pas faire ce podcast et je ne peux pas faire ce briefing sans terminer par dire si vous êtes victime d'étourdissements, de frissons, de maux de tête, de nausées, de vomissements de confusion, on s'arrête, on rentre à la maison. Une sortie de vélo de 2 heures ne se rattrape pas, mais en revanche, une vie, c'est bon à vivre et ça ne doit pas être gâché par un petit plaisir de 2 heures sous la chaleur.
Pierre a tout noté, hein, attentivement.
Sauf la partie sur
le blé.
La binouze. À 9h30 en rentrant de 3 heures de vélo.
Moi, je vais rester allongé avec le ventilo et une petite binouze à la main.
Bien sûr.
Non,
mais la seule chose
qu'on
entend beaucoup, tu sais, on entend beaucoup, une petite bière, ça désaltère. Ça désaltère, non. Mais ça déshydrate. Ouais. Et c'est
ça
pas
déshydrate,
bon pour la santé.
Bien sûr, bien sûr.
Faut boire de l'eau derrière, quoi.
C'est noté pour les coureurs du tour. Hein, si jamais il y a de grandes chaleurs cet été, j'ai l'impression que ça va être un bon sujet, ça, pour la grande boucle.
Attention, les coureurs du tour, eux, sont habitués, sont des athlètes de très, très haut niveau. C'est complètement différent d'un cycliste.
Ouais, enfin là, on a atteint des températures quand même. Si c'est comme ça durant le tour, je pense que ça va être compliqué quand même.
On va bien voir, effectivement. On est à moins de 2 semaines donc de la grande boucle. Pogacar ne laisse plus rien à personne cette saison. Pour l'instant, 2006 ressemble un peu à la marche impériale pour Tadej.
Et c'est parti pour Tadej Pogacar qui lance le sprint. Ouais, Tom Pidcock dans la route. Tadej Pogacar, est-ce qu'il va réussir? Il passe Tom Pidcock, le Britannique. Non. Victoire de Tadej Pogacar. Victoire de Tadej Pogacar au sprint.
Incroyable
victoire exceptionnelle
incroyable
de Tadej Pogacar, le monstre du cyclisme mondial. Tadej Pogacar qui s'envole dans cette dernière ascension du Vieux Coirmont. On s'y attendait. Comme l'année dernière, Tadej Pogacar qui prend quelques mètres d'avance. Tadej Pogacar qui, après Milan-San Remo, il y a 15 jours, va s'imposer pour la deuxième fois sur un monument cette année après une performance magistrale. Encore aujourd'hui, il aura gagné un petit peu moins facilement que l'année dernière. Impérial aujourd'hui encore le Slovène. Le Slovène, 4e victoire sur Liège-Bastogne-Liège, je le disais, 13e monument de la carrière de Tadej Pogacar. Il ne remportera pas les 5. 5 monuments cette année. Victoire de Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Il n'aura laissé des miettes à personne aujourd'hui, Tadej Pogacar.
Oh, bah c'est terrible, l'image est terrible. Lenny Martinez est déposé. Il aura entrevu la victoire, mais Pogacar ne lui a laissé aucun espoir au moment de le reprendre. La troisième victoire cette semaine en 5 étapes pour Tadej Pogacar, qui aura dominé de la tête et des épaules ce Tour de Suisse. Le coup double aujourd'hui, la victoire au sommet et le général pour l'ogre slovène.
Et oui, c'est la marche impériale de Tadej, hein. Cette année, l'empereur Poggi. Donc, 3 victoires d'étape. Un raid solitaire lancé à plus de 70 km sur ce Tour de Suisse dès la première journée pour tuer le suspense. Un chrono tout plat remporté pour un cheveu devant Van Der Poel. Et la dernière étape, reine de montagne décrochée en écorant Lenny Martinez, vous l'avez entendu, dans l'ultime kilomètre. Alors, c'est du jamais vu au Tour de Suisse depuis la Seconde Guerre mondiale. Il gagne avec plus de 6 minutes d'avance sur son dauphin, alors qu'il y avait 2 étapes en moins par rapport à d'autres années. Pogacar a-t-il déjà été aussi fort avant le Tour? Est-ce que Pogacar est plus fort que jamais? Je vous donne juste avant de débattre une statistique, parce que j'ai regardé toutes les saisons de Pogacar, j'ai fait mes calculs, hein, ça m'a pris quelques temps.
Moi aussi, j'ai fait des pourcentages.
Il est pour l'instant 7 jours de course, 11 victoires avant le Tour de France, c'est-à-dire qu'il est à plus de 68% de victoires sur les courses où il participe avant le Tour. Il n'a jamais eu un taux de victoire aussi haut.
Si.
Ah bon?
Si. 2023. 12 victoires en 16 jours de course, c'était juste avant sa fracture, 75% de victoires, 2023.
Il avait 21 jours de course avant le Tour de France. Hein. Donc, en tout cas, il n'a jamais aussi peu couru. Ça, c'est une certitude. Tadej Pogacar, est-ce que ça vous interpelle déjà, Christophe? Est-ce que tu as l'impression de voir la meilleure version de Pogacar?
Oui, mais bon, chaque année, on le dit, chaque année, on a l'impression qu'il progresse, qu'il est encore plus fort, mis à part ces 2 années où il a été mis en difficulté et battu par Jonas Vingegaard. Depuis, il ne cesse de progresser. C'est ça, d'ailleurs, qui peut paraître surprenant. C'est qu'à son âge, aujourd'hui, il continue d'être plus fort que les années précédentes. Et c'est ça qui interpelle aujourd'hui tout le monde. Mais effectivement, il me semble plus fort que les années précédentes. Et il va s'avancer sur ce tour en grandissime favori. La seule différence, c'est que les années précédentes, on l'avait vu quand même dans les courses précédentes, affronter ses adversaires. Là, on n'a pas de comparaison avec Vingegaard.
Ah bah, tout le monde l'a évité.
On a vu Vingegaard. Ah. Sur le Giro, impressionnant. On a vu Sexas, impressionnant. Bon, il a été battu par Pogacar, mais il n'y a pas eu d'affrontement, de bagarre entre les deux. Donc, est-ce qu'il est plus fort que Vingegaard? Sans doute, mais est-ce qu'il est beaucoup plus fort que Vingegaard? Ça, on ne le sait pas. On le verra pendant le Tour de France.
Moi, je ne suis pas en mesure de dire si c'est le meilleur Pogacar, si c'est Pogacar Prime. Je le trouve personnellement un peu moins impressionnant qu'il y a 2 ans. Mais où sur le tour, il avait vraiment fait très très mal.
Mais il avait gagné 5 victoires d'étape et voilà, battu Vingegaard pour plus de 6 minutes.
En revanche, ce que je constate, c'est que ses adversaires, il les a battus avant même de commencer, il les a battus avant même d'attaquer. C'est ce qui s'est passé sur le Tour de Suisse et c'est pour ça que tu te retrouves avec un écart de 6 minutes.
Il n'y a pas d'adversaire sur le Tour de Suisse.
Mais oui,
sur le Tour de Suisse. On a vu des gestes, Pierre, ouais. Quand il part, de dépit vraiment de ses adversaires.
Ils l'ont laissé partir.
On l'a rarement vu.
Et à part Carapaz qui a vraiment mené une chasse avec ses moyens, mais qui a mené une chasse, les autres n'ont même pas essayé de... C'est pour ça qu'il y a un tel écart, en fait. Ils ne se sont même pas mis ensemble pour essayer de revenir. Donc il y a un tel abandon, il y a un abandon du combat face à Pogacar. Est-ce que ça sera le cas sur le Tour? Je ne pense pas. En tout cas, pas au tout début. Et peut-être que là, on verra si c'est vraiment le plus fort. Mais on l'a vu, même sur Liège-Bastogne-Liège, où seul Sexas a voulu y aller, a voulu... Sinon, en fait, on le laisse partir et on essaie de faire 2. C'est ce qui s'est passé, au Tour des Flandres, par exemple.
Jérôme, est-ce que toi, tu as l'impression... Est-ce que tu te poses la question, en tout cas? Est-ce que c'est de cette version de Pogacar? Est-ce que ce n'est pas la meilleure?
Moi, je me la pose et je me dis que non. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Mais il n'a pas affronté ses adversaires principaux cette année, à part Paul Sexas sur Liège-Bastogne-Liège. Son Tour de Suisse, c'est le même que le Paris-Nice de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard a gagné Paris-Nice les doigts dans le nez. Il a distancé les autres quand il a voulu. Il a gagné les étapes de montagne. Il s'est fait simplement battre par Lenny Martinez au sprint sur la dernière étape. Sinon, il s'est passé quoi cette année? Il a gagné Milan-San Remo avec une grosse erreur de Tom Pidcock dans le sprint. il a gagné l'IS Bastogne-Liège avec un mec qui lui a résisté un peu plus longtemps que d'habitude, puisqu'il a dû le distancer dans la Rochefaucauld alors qu'il avait mis la belle attaque dans l'IS Bastogne-Liège. Et sur Paris-Roubaix, eh ben, il s'est heurté aussi à un Wout Van Aert. Donc là, cette année, pour le moment, il n'a pas, pour moi, surdominé ses adversaires directs. Alors évidemment que sur le Tour de Suisse, il a dominé. Oui, 6 minutes d'avance, mais 6 minutes d'avance sur Richard Carapaz. Est-ce que, messieurs, autour de cette table, vous mettez Richard Carapaz parmi les prétendants ou non, parmi les podiumables du prochain Tour de France?
Non, pas avec ce casting-là, en tout cas, au départ.
Donc, finalement, la première, et là, je rejoins mes copains autour de la table, la première confrontation de très haut niveau qui va avoir lieu cette année, c'est au départ du Tour de France, là où il y aura Lipovic, Evenepoel, Tadej Pogacar lui-même, évidemment, Jonas Vingegaard avec une énorme équipe Visma Liseberg et Paul Sexas. Là, on verra. Mais pour moi, notamment sur le dernier contre-la-montre où il bat Mathieu Van Der Poel. Alors, Mathieu Van Der Poel est un immense champion. Mathieu Van Der Poel est un champion multidiscipline. Mais on ne s'invente pas spécialiste du chrono parce qu'on a travaillé 3 semaines le chrono en Espagne.
Quoi, il faut pas se laisser emporter par les émotions, peut-être, justement de sa faculté à remporter beaucoup là où il se présente. Et finalement, se rappeler précisément des scénarios pour se dire que la domination n'est pas si importante.
Oui, je pense que la victoire, comment elle est fabriquée,
parce que là, quand même,
donne
Jérôme,
plus d'enseignements que la victoire elle-même. Et la différence avec les deuxièmes, il faut voir qui est. On dit toujours, dis-moi qui est ton deuxième, je te dirai si tu fais un beau vainqueur. Bon, Richard Carapaz est un très bon coureur. Lenny Martinez est un excellent coureur. Mais est-ce qu'on se dit qu'il peut rivaliser avec Tadej Pogacar, le meilleur coureur de tous les temps, peut-être? Bah non, en fait, c'est assez logique. Moi, je mets la victoire de Tadej Pogacar sur ce Tour de Suisse, je la mets au même niveau qu'un doublé, qu'un triplé de Cristiano Ronaldo face à l'Ouzbékistan. Ok, on sait qu'il va marquer, on sait qu'il est plus fort.
Oui, mais Jérôme, en fait on a l'impression, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, hein, mais on a l'impression que il sait encore plus comment se gérer, en fait. C'est-à-dire que les années précédentes, il était encore dans la découverte. Par exemple, il est arrivé sur Paris-Roubaix. Voilà, c'était les premières fois. Il n'avait peut-être pas encore le corps aussi pour affronter ces courses-là. Il faisait plus de jours de course. Aujourd'hui, il sait exactement où aller, quand y aller, avec quelle envie y aller et avec quel corps y aller également. Ouais, il a pris du poids, il a pris du muscle pour faire les Flandriennes.
Il a séché
immédiatement. C'est-à-dire que, non mais tu faisais l'analogie avec la comparaison avec Cristiano Ronaldo. On a l'impression d'un mec justement qui arrive à sa version la plus proche de la perfection.
Il a 27 ans, c'est quand même l'âge idéal pour un coureur cycliste. Les plus grands champions à 27 ans. Il est au sommet sans doute de sa carrière à cet âge-là. Et effectivement, il sait se gérer, il a progressé dans beaucoup de choses, il a travaillé notamment sur la résistance à la chaleur et aujourd'hui, ça ne semble plus être un problème pour lui. Tu as raison de le signaler, Georges, il est capable de prendre du muscle au moment de faire les grandes classiques et de le perdre au moment d'attaquer la montagne.
Mais en fait, c'est
une machine de guerre.
Il a su réduire à chaque fois, parce que tu dis, Jérôme, effectivement, il faut revoir les courses et les scénarios. Je suis d'accord avec toi quand même, mais malgré tout, la pièce, alors sauf à Roubaix, elle tombe à chaque fois de son côté quand même.
Sauf à Roubaix,
c'est pas un hasard.
Oui, mais alors après, attention, je dis pas qu'il n'est pas un bon coureur et qu'il n'est pas le plus fort de tous. Je dis qu'il ne faut pas se faire enfumer par sa domination dans cette course-là, la dernière. On reste toujours sur la dernière impression.
J'ai l'impression qu'il y a une sérénité qui se dégage de lui, plus que jamais.
Oui,
en fait.
Alors peut-être qu'il est serein, mais malgré tout, il a préparé. Il est de toute façon serein puisqu'il sait qu'il a tout fait pour arriver au top de sa forme. C'est ça la préparation. Tout faire pour arriver au top de ta forme. Lui, il est au top de sa forme. Et il est déjà en train d'écœurer ses adversaires parce que je suis sûr que Pierre, tu loupes rien. Tu as vu les déclarations de Koen Bouwman aujourd'hui dans les médias hollandais qui dit oui, c'est trop de différence. J'ai l'impression qu'il y a autant de différence entre un coureur amateur et moi qu'entre moi et Tadej Pogacar, patati. Bah oui, mec.
Oui, en gros, bah, il y a autant. Nous, quoi.
Mais oui, mais c'est ça en fait. C'est comme les déclarations qu'on faisait avec Eddy Merckx à l'époque et dans un autre temps plus court avec d'autres. Mais pourquoi? Parce qu'il est ultra talentueux et parce qu'il est ultra dominateur. Et parce que l'autre jour, on avait ce débat-là aussi, Georges, c'est qu'il prépare les choses. Ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas couru. Ça fait 2 mois et demi qu'il se prépare pour faire de la compétition. C'est une bête de compétition, c'est un garçon qui veut tout gagner. Eh bien, la première course, la première étape de la première course, c'est un circuit et un parcours qui lui plaît. Il a tout mis il les a atomisés. Mais le deuxième, c'est un... C'est un second, c'est pas la tête. Mais croyez-moi bien que s'il y avait eu Remco Evenepoel, Lipovitz, on peut mettre du Del Toro, du Almeida, mais ses équipiers, on met du Sexas et du Vingegaard. Il n'écrase pas l'étape comme
mais
ça.
Jérôme, moi j'entends très bien ce que tu veux dire. Alors, je ne sais pas s'il est plus fort que jamais, mais en tout cas, dans l'esprit de ses adversaires, il est peut-être plus fort que jamais. Et c'est en ça que peut-être...
Mais pas ses adversaires directs.
Mais on verra ça sur le Tour de France. Mais on a l'impression qu'il y a une certaine abdication, en fait.
Enfin, bien sûr qu'il s'en va.
Mais t'avais déjà vu une telle allégeance avant le Tour, François?
Je vais te dire une chose.
Il gagne le Tour de Romandie il y a un mois avec 40 secondes d'avance sur Lipovitz. Oui, il avait un adversaire d'un
autre niveau.
40 secondes, c'est pas 6 minutes, hein.
Non, ah oui, voilà.
Et puis la première étape, Pierrot, excuse-moi de te couper, la première étape du Tour de Suisse, avec l'équipe que va aligner l'équipe de Jonas Vingegaard, il se serait passé quoi s'il refait cette erreur de partir à 60 bornes? Parce qu'il sait très bien pourquoi il l'a fait, parce qu'il n'y a personne qui peut rouler sur lui. Mais avec l'équipe qui sont en train d'aligner Visma Lease Bike et les Red Bull Borans Groe avec la grosse Armada, mais c'est une erreur fatale qu'il fait, parce qu'il bien le sûr. Laisse aller, et il le mange, et il a laissé des plumes pour gagner 30 secondes, ou même s'il ne gagne pas, tu vois. Donc, il va falloir aussi comprendre que quand il est seul face à personne, il fait des intensités quasiment en course, et il se met à un niveau qu'il sait dans lequel il doit évoluer pour les futures échéances pour lui. Et mais je suis désolé de le dire, mais le Tour de Suisse, pour moi, était pour Pogacar. Un dernier stage.
Ce débat-là qu'on a, c'est un débat qui est partout. Il y a un écœurement aussi sur la domination de Pogacar à 2 semaines du Tour de France. Tout le monde se dit, mais en fait, quelles sont vraiment les raisons d'y croire, Pierre ?
Là, je pense qu'on ne peut vraiment pas tirer une généralité du Tour de France de ce qui s'est passé sur le Tour de Suisse, parce que ce n'est pas du tout la même adversité.
Mais la saison, en fait, c'est la
mais
saison.
Mais la saison n'est pas si... Elle est exceptionnelle dans le sens où on voit rarement quelqu'un dominer comme ça, mais à l'échelle de Pogacar, c'est pas une saison où il a assommé tout le monde. Il a réussi à faire ce qu'il voulait faire depuis des années, c'est-à-dire gagner Milan-San Remo. Bon, il l'a pas fait en sortant tout le monde de sa roue. Hein. Tom Pidcock
va s'en vouloir longtemps. Hein.
Oui, mais les gars, encore heureux, en fait. Il fait toutes les courses de l'année, sauf qu'il les gagne, en fait.
Il ne les fait pas toutes, t'as rappelé. Il a 12 ou 14 jours de course.
Il fait toutes les courses importantes.
Vingegaard, il n'a pas couru plus que lui, là.
Mais attendez, pour parler d'une nomination encore plus importante, vous voulez quoi? Qu'il gagne San Remo avec 5 minutes d'avance?
Non, je vois.
Et le Tour de Suisse avec 20 minutes d'avance?
Non, mais il faut qu'il le fasse face à ses vrais adversaires, ceux qui seront sur le Tour de France. Là, il ne les a pas affrontés. Donc, je pense qu'on s'emballe un peu trop vite. Attendons de voir ce qui va se passer face à Vingegaard. Je suis désolé, mais quand Vingegaard a gagné le Giro, on était en train de dire la même chose. Il n'a pas d'adversaire. Il gagne, mais il n'a pas d'adversaire face à lui. Et là, il n'a pas d'adversaire non plus face à lui, et on s'emballe pour Gacha. Désolé, il y a deux poids, deux mesures quand on considère les performances de Vingegaard et celles de Pogacar.
On ne tire pas des conclusions. L'idée, ce n'est pas de dire, regardez le Tour de Suisse qu'il a fait, il va éclater tout le monde. C'est regarder toute la saison. Et puis regarder aussi ce que disent les coureurs à l'arrivée. Et ce qui se dit aussi sur les stages. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. Les Red Bull Borans Groe l'ont croisé en Sierra Nevada. Il leur a mis une trempe, en fait. Ils l'ont croisé sur une ascension. Il les a dépassés, il les a attendus au sommet en fumant la pipe.
Mais ça fait partie de la guerre psychologique. Ils envoient des messages
quand tu te sens fort.
Maxime Van Gils qui déclare ça, Remco Evenepoel hier a fait 6 heures 200 bornes avec plus de 5000 mètres de dénivelé. Les autres adversaires vont dire waouh, ça y est, il est au top, on l'a croisé.
Mais ça participe à un climat.
Georges, Jérôme ne va pas me contredire. Je pense pas qu'il faut prendre tout ce que disent les coureurs au premier degré.
Il n'y a pas plus menteur que
voilà. Il y a une grosse partie d'intox, il y a une grosse partie de mensonges, il y a une grosse partie de folklore. Donc oui, Van Gils a dit, on a cru qu'il s'était caché dans le buisson parce qu'on ne le voyait plus tellement il est allé vite. C'est aussi une façon de dire, vas-y, fais ton truc dans ton coin, Coco, ok, t'es plus fort que nous, t'inquiète. Et c'est aussi une façon de se mettre zéro pression.
Non, mais c'est aussi une façon de regrouper tous ses adversaires autour d'une même idée, c'est-à-dire, il y en a marre qui nous tape dessus, on va se les faire tous ensemble au Tour de France, on va leur laisser. Mais ils commencent déjà à travailler la stratégie et puis les alliances. Parce que si tout le monde en veut à Tadej et que tout le monde en a ras-le-bol de Tadej sur le Tour parce qu'il domine trop, Ben, y a bien des moments où ils vont prendre des décisions communes. Ça commence maintenant, le départ, le tour est lancé déjà, on le sait que le tour est lancé.
Ah, moi, c'est pour ça que je vous posais la question aussi ces derniers jours, de dire est-ce que Pogacar, il n'en fait pas trop.
Georges, tu as peur qu'on s'emmerde sur le Tour de France en gros. Non, parce que la domination de Pogacar est telle que tu as peur que ce soit la même chose.
Alors,
sur le
si la question est posée dans le sens, genre.
Tout le monde se pose cette question-là.
Si ta question est posée dans le sens stratégie, est-ce qu'il n'en fait pas trop et qu'il peut agacer et que ça peut se retourner contre lui? Ça peut.
Non mais regarde les gestes sur le Tour de Suisse quand il part, genre allez vas-y, bah c'est quoi, vas-y. Non
mais Georges, moi je vois aussi des réactions dans les médias là en ce moment. C'est comme si moi à l'époque, et vous savez que c'est pas mon copain, j'aurais pesté parce que j'arrivais pas à suivre Armstrong. Je savais très bien que j'avais pas le niveau dessus, mais même sans tout ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, il faut aussi que chacun reste à sa place. T'as les Pogacar, il y a personne sur le Tour de Suisse qui peut le suivre quand il attaque. Quand il a décidé d'attaquer, personne. Il est de toute façon au-dessus et largement au-dessus de tous les garçons qui étaient au départ du Tour de Suisse en montagne. Ils n'ont pas à pester, c'est juste la réalité du niveau et de la génétique. Ce gars-là est fait pour être au-dessus des autres et c'est un immense champion et c'est un génie du vélo. Les autres sont des très très bons coureurs, mais c'est ce qui fait la différence. C'est sûr, un Tour de Suisse, ça fait 6 minutes avec le deuxième. Ça, c'est logique.
Est-ce qu'il en fait trop, Pierre, pour toi, Pogacar?
Alors oui, dans le sens où tu n'es pas obligé d'écraser comme ça. Non, parce qu'en même temps, comme tu fais aussi peu de jours de course, marque les esprits. Tu vois, si tu fais des jours de course pour en même temps rester dans le peloton, ça ne vaut pas le coup. Si tu es Pogacar et que tu fais 10 jours de course dans l'année, envoie un peu. Quoi. C'est normal. Il n'est pas là pour... Justement, c'est ce qu'il ne veut plus faire. Il ne veut plus être là pour suivre et j'arrive à la fin et puis on va au massage et on attend l'étape d'après. Ça ne l'intéresse plus, ça n'intéresse plus non plus Mathieu Van Der Poel. On a compris ça et c'est pour ça que son planning est fait comme il est fait. Mais dans ce cas, il faut envoyer du bois.
Moi en fait, la question que je me pose, c'est que je me demande s'il n'y a pas un espèce de basculement. On trouvait ça sympa et même peut-être certains coureurs, le côté rock'n'roll, il est inspirant, Pogacar avec ses longs raids, avec ce qu'il fait. Est-ce que ça ne va pas commencer à agacer?
Georges, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il a choisi pour son palmarès et compagnie de faire le Tour de Suisse alors qu'il aurait dû aller sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes face à une vraie adversité, avec l'endroit.
Le résultat, c'est que tu humilies tout le monde.
Où il va faire le Tour de France pour repérer, etc. C'est ça qu'il doit faire.
Mais tous les plus grands champions ont humilié tout le monde, ont humilié leurs adversaires. Voilà, c'est du même ressort. Mais c'est pas de la même manière.
Ça ne le rend pas sympathique.
Armstrong humiliait ses adversaires, mais il le faisait pas de la même manière. Il le faisait avec dédain, c'est-à-dire qu'il dégoûtait vraiment ses adversaires. Rappelle-toi, la petite main dans le dos, la petite main sur les fesses de Chavanel. Ah,
mais j'ai eu peur qu'il fasse la même chose avec Lenny Martinez sur le Tour de Suisse.
Hein. Non, il lui a dit désolé, je suis là pour gagner. Quoi.
Ouais, mais derrière, il lui a dit, t'inquiète pas, ce sera mieux de gagner sur le tour quand même, ce sera plus sympa.
Ouais. Franchement, bon, après, Merckx, moi je l'ai un tout petit peu connu, mais je m'en rappelle pas vraiment. Mais c'était la même chose. Il était détesté par le monde entier, par les coureurs du peloton et également par tous les supporters et tous les spectateurs.
Il n'y a pas un basculement qui est en train de se faire là, peut-être.
Mais il avait pas la même manière de gagner. Poggi, il garde le sourire.
Tu peux être détestable de plusieurs façons. Hein. Moi, un mec qui me sourit à la gueule et qui me met 6 minutes à l'arrière, ça me saoule.
Moi, il m'a pas encore retourné, je le déteste pas encore. Peut-être qu'à la fin du tour, j'en viendrai à le détester. Mais il reste pour moi un magnifique champion. Et un vrai champion, il est là pour gagner. Il n'est pas là pour faire des cadeaux à ses adversaires. Et Poggi, il n'est pas là pour faire des cadeaux ni à Martinez, ni aux autres. Il est là pour gagner. Il est là pour s'entraîner. Il est là pour être le meilleur au départ du Tour de France. Et ce Tour de Suisse, c'était un dernier entraînement pour lui. Voilà, donc moi, ça ne me choque pas du tout sa manière de faire. Je suis désolé, il est un grand champion. Il est le plus grand aujourd'hui, ça c'est
sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont il a doublé Lenny Martinez?
T'as vu quand il se met en danse?
Il lui laisse absolument aucune chance puisqu'il va le doubler juste à la fin de là où il y a de la pente pour empêcher ensuite qu'il y a un reblat. Et il accélère pour lui laisser aucune chance. Mais le doubler côté.
Voilà, pour le coup, stratégiquement, il a raison. Il le double dans l'angle mort.
Il pourrait être sympa. Tu vois,
regardez dans le rétro, il n'y avait plus rien.
Ça m'a rappelé quand il avait.
Non, il n'a pas à faire le cadeau. Il n'a pas à être sympa. Il n'a pas à être sympa. Moi, je suis désolé. En plus. Il a battu Lenny qui a fait un super Tour de Suisse, qui a fini très fort mais qui est arrivé de stage et qui était tombé, donc diminué. Donc pas étonnant de voir Pogacar à ce niveau. Et clairement, à un kilomètre de l'arrivée d'une étape d'un Tour de Suisse qui est une course World Tour, il n'a pas à être sympa. Je reviens à ce que tu disais, Pierre. C'est, l'intelligence, elle vient de son staff. Ils savent que de toute façon, Tadej, il va faire toutes les courses à fond les gamelles. Quelle que soit l'étape, même si c'est une course par étape, il va vouloir tout courir à fond. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué son nombre de jours de course. Ils se sont dit, on va lui en faire moins, on va faire que des objectifs.
Ah bah, on n'a plus l'impression qu'il est au bord du burn-out, pour le coup.
Parce qu'il a la fraîcheur. Alors attention, avec la suite de ce qui va se passer jusqu'au départ du tour, je ne dis pas attention danger parce que Tadej Pogacar est tellement loin de tout ça et au-dessus, mais il a décidé de ne pas aller à Isola 2000, mais plutôt de rester auprès de sa compagne qui est tombée lourdement au Tour de Suisse. Peut-être que ces choix-là vont peser sur un Tour de France si ses adversaires sont à la hauteur. Parce que je pense que Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Paul Sexas seront des coureurs qui vont être d'un autre talent, d'un autre niveau pour essayer de contrecarrer ses plans. Et en tout cas, pour moi, il ne sera pas ultra dominant comme il a pu l'être cette saison.
La question de est-ce qu'il est plus fort que jamais, c'est aussi si son équipe est plus forte que jamais. On rappelle au départ du tour, il n'y aura pas Jean Almeida ni Soler. Pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est Del Toro, McNulty, Velens, Adam Yates, Vermeersch, Nils Politz pour l'accompagner. C'est quand même pas mal. Non, mais est-ce que son équipe aujourd'hui est impossible à bouger quand on voit ce que fait Del Toro, notamment sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre?
Je pense que c'est sur le papier, j'ai l'impression que c'est la meilleure équipe qu'il ait jamais eue.
Voilà.
Notamment pour, dans l'optique du contre-la-montre par équipe inaugural, où ça vaut le coup d'avoir des McNulty ou des Vermeersch qui vont t'emmener très bien en bas de la bosse de Montjuïc. Mais après, ça c'est sur le papier, parce que si, comme sur le Giro, tu as un tel qui tombe et l'autre qui tombe, tu te retrouves avec une équipe qui sera pas. Voilà. On a vu AE sur le Giro, c'était Narvaez et basta.
Moi, ce qui en fait, m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a zéro trou dans la raquette, en fait. Par rapport à peut-être d'autres années où on pouvait dire effectivement la chaleur, enchaîner les monuments, faire
le,
tout
le
ça.
Le Giro avant le Tour de France. La fracture sur Liège-Bastogne,
je ne vois aucune raison d'y croire. Ouais.
Pour les autres.
Non mais en fait, j'ai l'impression que s'il est battu cette année,
tu vas nous
déprimer. S'il est battu cette année, ce sera l'un des plus grands exploits de l'histoire du cyclisme.
Alors moi, je vais te donner un élément de réponse et te donner un élément pour douter. Je vais te donner des noms de gars qui vont composer une autre équipe. Bruno Armira, Jorgensen, Piganzoli, Kampenaerts, Kuss, Hagenes, Affini, Vingegaard.
Ça, c'est
là aussi il y a une équipe.
Pour le contre-la-montre par équipe,
il y a une très grosse équipe. Évidemment,
déjà, ils ont choisi un maillot noir alors qu'il va faire 30 degrés pendant tout le tour.
Alors, tu as vu, ils ont peut-être une autre tendance, un maillot beaucoup plus clair, un jaune très pâle. Et cette équipe-là, elle peut faire aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Parce que, certes, pour moi, l'élément central et l'élément essentiel dans cette équipe, ça va être le niveau de Yates. Del Toro, on sait, il va se plier parce que tu as des Pogacar et parce que c'est un garçon qui est très bien élevé et qu'il a énormément de respect pour son leader. Donc Del Toro fera le taf. Yates, il faut qu'il soit très très costaud. Est-ce que Yates sera très très costaud ou transparent ou pas au top niveau comme il a pu l'être sur certaines courses? C'est là la clé.
Est-ce que tu y crois vraiment, franchement, Jérôme, ou tu vas chercher? Parce que là, moi, je pourrais aussi te dire, attends, mais Visma, ils ont perdu Van Aert cette semaine.
Dirait son directeur sportif, en perdant Van Aert, on n'a pas perdu un équipier, mais deux. Parce qu'il fait le boulot pour deux. Il n'a pas faux. Il n'a pas tort. Mais de toute façon, avec toutes ces spéculations, évidemment qu'un élément essentiel manquant dans une équipe, et tout de suite, c'est le bazar. On peut parler aussi de l'équipe d'Hécatlon CMA avec des absents, des malades et des incertitudes. Mais si les deux équipes sont constitués que de garçons qui vont avoir la santé et la forme de leur vie, il y a une très très bonne équipe aussi du côté de Visma et Isovac.
Et moi, ce qui me fait encore plus peur, mais en fait j'ai peur, voilà, il faut être tout à fait transparent, on est à 10 jours du tour.
Je sens que tu vas même pas venir à Barcelone.
Je commence à me poser la question, mais je crois qu'on peut pas rembourser le billet. non, on va venir, évidemment. Non, mais c'est aussi la communication de UAE. Je sais pas si vous avez vu, mais Machin, évidemment, l'une des têtes pensantes de l'équipe Emirati cette semaine, a répété à plusieurs reprises, s'il y a un garçon qui peut être un gros obstacle sur la route du 5e Tour de France pour Pogacar, c'est Paul Sexas. Paul Sexas, c'est l'égal de Vingegaard. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se préparer à vouloir aussi jouer avec Sexas.
Oui, mais bon, je pense que c'est quand même une erreur de faire fi de Vingegaard de la part du AE. Alors, je ne sais pas si c'est
pour l'humilier. Non, il dit que c'est au même niveau, Chris. Il dit que c'est au même niveau que Vingegaard, il y a aussi Paul Sexas.
Ouais. En fait, eux ont aussi intérêt quand même à... De la même façon que les autres ont intérêt à s'allier à un moment ou à un autre ou à créer les conditions d'eux, eux ont quand même intérêt à justement créer
la rivalité entre les autres.
Comme ça, ils ne s'allient pas.
Ouais. Voilà, comme ça, il n'y a pas de.
Il n'y en a jamais vraiment, mais tu as raison.
En fait, ce n'est pas notre coureur de dimanche, c'est notre Machiavel. Il a raison, mais il a complètement raison.
Il y a deux choses. Déjà, d'une, les garçons, n'oubliez pas que Tadej Pogacar, pendant les 2 mois et demi qu'il s'est entraîné, là, il a entendu qu'une chose, ou deux choses, ou trois. Parce qu'il écoute.
C'est que ça, Vingegaard très fort.
Donc, lui, autour de Suisse, il a dit attendons, on va voir qui est fort. Donc lui, il a mis les pendules à l'heure. Ils font une com, ok, ils ont été très forts, vous avez vu ce que j'ai fait, maintenant on va leur mettre la pression sur eux. Vingegaard et Sexas sont mes adversaires pour le tour. Ils délaissent complètement Evenepoel au passage quand même. Evenepoel, ils le considèrent plus.
Il les a déjà humiliés au stage.
Evenepoel, il a plus couru depuis 6 mois.
Il les a humiliés en Sierra Nevada.
Ce que l'on peut juste espérer, Christophe, on sera tout au long du mois de juillet sur les routes du tour et vous serez tous à suivre cela derrière vos écrans, j'en suis sûr, c'est que le jour où vers les angles, par exemple, il y a une belle échappée bien constituée avec des garçons du type Benili, des garçons qui sont très forts et qui sont éventuellement une pression pour le classement général. Donc, faut pas trop leur laisser de temps. J'espère, au grand Dieu, que ni Visma, ni CMA, ni une autre équipe comme Red Bull ira rouler derrière les échappées. J'espère que dès le départ, ces équipes-là, puisqu'ils écrasent tout le monde, laisseront faire l'équipe de Tadej Pogacar rouler derrière chaque échappée. Ça, je l'espère.
Mais non, mais vous inquiétez pas, il faut y croire en fait. Parce que j'ai Christophe Chachet à côté de moi. Il faut absolument qu'on y croit. Non, mais je pense qu'il y a une grande partie du public qui est un peu désabusé aussi quand on voit la domination de Pogacar cette année. Et on se refuse à y croire peut-être, justement pour pas être déçu. Mais tout
Georges,
est possible.
T'as le meilleur casting au début d'un Tour de France.
Bien sûr,
ce casting est exceptionnel.
Ah, vous avez raison.
C'est clair.
Lipo,
on a surtout la chance d'avoir.
Allez, Lipo.
Non, mais on a Lipo.
Oh, il y a Ayuso en plus, c'est incroyable.
Et surtout, Georges, on a peut-être pour une fois. Et depuis très longtemps, l'espoir d'avoir un Français sur le podium, déjà, et d'avoir un Français qui est dans le jeu avec des jeunes coureurs. Et cette fois, c'est un peu plus dilué. Effectivement, tu dis Ayuso, il est chez Lidl, il n'est plus dans l'équipe UAE. Enfin, on a un peu plus de mecs à droite à gauche. Il y a notre Brooks, c'est tout ce qu'il aime, et il va certainement tenter des choses. Voilà, ils vont pas faire plier Pogacar à la pédale, mais s'ils s'y mettent tous à courir intelligemment. Pogacar a déjà perdu le tour, donc pourquoi pas.
Voilà. Et ben voilà, vous avez compris, il faut donc que 100 coureurs s'allient face à Pogacar pour essayer de le battre. Allez, tout de suite, le sprint final du peloton RMC.
Le sprint final du peloton RMC.
On a passé la flamme rouge, les amis. Le sprint final, évidemment, c'est notre quiz. 10 questions chacun pour soi. Tiens, les deux Jérômes ont gagné et Maria Azé a gagné la semaine dernière. Donc, comme quoi, c'est possible de battre les deux Jérômes, les amis. Vous êtes prêts ? Christophe, t'es prêt ?
J'ai pas gagné une seule fois. Moi.
Ah bah oui, mais là si tu pars perdant déjà.
Et en plus, il y a Julien Benneteau qui est à côté. Je vais peut-être le prendre avec moi pour gagner.
Le roi des jeux, Benet.
Allez les amis, concentrez-vous. Une seule réponse possible. Donnez-moi s'il vous plaît le nom d'un coureur français qui a privé Pogacar d'une victoire d'étape cette saison.
Dorian Godon,
Tour de Romandie. Bien joué. Il y avait également Romain Grégoire sur le Tour de Suisse. Eh oui, parce que Romain Grégoire a gagné l'étape.
Ah oui.
Oh là là, on est fort. Il y a que les Français qui arrivent à battre Pogacar.
Mais pas Martinez.
Les raccourcis. Une seule réponse possible. Comment s'appelle la compagne de Pogacar ?
Urquhart.
C'est Christophe qui part en premier.
J'ai mis le prénom, moi, les gars.
Ouais. J'avais également noté celui qui trouve doit épeler sans faute son nom.
URSKZYGRT.
Voilà. Bon, il y avait juste. J'accepte, le tour c'est dans 10 jours. Mais attention dans 10 jours quand même. Allez, un point pour Christophe et Jérôme. Le plus proche l'emporte en 6 participations à la grande boucle. Combien d'étapes a remporté Poggi ?
25.
18.
25, 18, Jérôme ?
21.
Jérôme ?
20.
Non, c'est 21, mais tu l'as dit après.
J'ai dit après.
Un point pour Jérôme. Oh là, il est fort. Plusieurs réponses possibles. Quand il gagne le Tour de l'Avenir en 2018, Pogacar, qui termine deuxième ? Alors j'ai découvert en plus, hein, je ne vais pas vous rappeler.
C'est relou.
Tobias Foss ?
C'est un podcast de spécialistes.
Uite hein. Brooks ?
Non.
2014 ?
C'est un coureur néerlandais.
Néerlandais ?
Ouais.
Omen ?
Van der Poel ?
Non.
Koen Baumann,
Tim Enarensman. Tim Enarensman.
Ah ouais, oui, Enarensman. Oui, il a gagné deux étapes sur le dernier tour.
Oui, c'était pas la question.
Oui, mais bon, c'était effectivement.
Plusieurs réponses possibles. C'est un coup spécial Poggi en fait, hein, je voulais pas dire.
Ah bah ouais, 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 pas dit, ouais.
Ça veut dire quoi, plusieurs réponses possibles?
Bah ça veut dire que tu peux donner plusieurs réponses.
D'accord.
Possible.
Quand il gagne son premier tour en 2020 devant Roglic, on s'en rappelle, hein.
Ouais, la planche des belles filles.
Non, bah c'est pas la gueule. C'est bien parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. Qui a terminé troisième de ce Tour de France?
Wow.
Qui a terminé troisième du premier tour remporté par Pogacar? Il y a qui sur le podium sur les
Fabio Aru?
Non, avec Pogacar, Roglic, Anne Hidalgo plus bas. Et sur la troisième place, il y a qui? Allez, c'est un Australien.
Ah oui, j'ai fait pareil.
Bah, l'autre Australien.
Michael Matthews. Non, mais non.
2-1, c'était Richie Porte.
Ah ouais, mais oui, on l'a, allez, reste, on l'a complètement oublié. Sûr,
plusieurs réponses possibles. L'année de sa deuxième victoire au Tour en 2021. D'où partait le Tour de France en 2021?
Oh là là. Je me fais regarder sur mon téléphone.
Mais qui était, Christophe?
En Bretagne, en Bretagne, en Bretagne.
En Angleterre?
Non.
À Nice?
Non.
À Copenhague?
À Nice?
Non.
On y était.
C'est quelle année tu dis?
En 2021.
Ah, en Bretagne, à Brest.
À Brest.
Ah, c'est moi, c'est moi.
Non, c'est Christophe.
Mais 3, non.
2 et donc...
32-0.
Une réponse possible, très simple, très très simple. Il reste 4 questions. Hein. On fait un podcast de 2 heures. Nous sommes en 2022. Dans quel col Poggi a perdu le Tour de France?
Télégraphe.
Le col de...
Non, non. Le, la Lose, la Lose.
La Croix de Fer, la Croix de Fer.
Le col...
La Lose.
Arrête-moi.
La...
Non, il perd le... Allez, le Galibier. Le, son premier tour, là.
Ouais, je suis presque...
Quand il est
sélectionné par
Visma.
4, 3, 2,
le Galibier.
C'était le Granon, les gars.
Le Granon.
L'étape du Granon. Ah,
c'est le Granon. Ça se répétait 50 000 fois.
Non, mais 50 fois. Vous êtes nuls.
Oh là là. Il, quand il croise vraiment et qu'il dit I'm dead, c'est le col de la Lose, les gars.
Ah oui, d'accord, mais moi je suis
non,
désolé,
mais c'est dans le Granon.
Il avait dit 50 fois,
le symbole, c'est le Granon.
Allez, plusieurs réponses possibles. Spécial Poggi, je rappelle. Dans quelle ville Pogacar a remporté son premier maillot arc-en-ciel?
Zurich.
Voilà, Pierre. Ah, les jeux, ils sont mieux quand on trouve les réponses tout de suite. Hein.
Moi, j'ai travaillé sur le championnat de France, mais là, je me suis fait avoir. Là.
Je t'ai roulé dans la farine.
Plusieurs réponses. Bah, tu t'es roulé tout
parce que le championnat de France, c'est dimanche. Là. Mais tu pensais que tu t'allais t'intéresser au.
Et d'ailleurs, ce sera à suivre sur RMC.
Ah, ben merci, c'est plaisir.
Avec Kevin Morand sur place, en direct. Plusieurs réponses possibles. Il reste 2 questions. Attention, Christophe, tu peux encore gagner.
Non.
En 2020, pour sa première victoire sur le Tour, Poggi avait pour coéquipier un vainqueur d'un grand tour. Qui? Dans l'équipe UAE, il y avait, elle était.
Fabio Aru.
Fabio Aru.
Il l'a dit, j'ai dit.
Non, mais j'ai dit, une autre question.
Non, mais au bout d'un moment, ça finit par passer, quoi.
Allez, dernière question. Sur le dernier Tour de France remporté par Pogacar, sur le dernier Tour de France remporté par Pogacar, qui a terminé meilleur français?
Vauclin.
Ah, Vauclin, mais les gars, vous pensez, Jérôme. Heureusement que tu es notre spécialiste. Hein. Au prix, on te paye. Heureusement que tu gagnes avec autant d'avance. Bravo, Jérôme Pinault. Christophe Cessieux. Commence à hésiter à aller à Barcelone.
Non, mais moi,
Pierre
Conchette. J'arrête les jeux surtout.
Pierre Conchette. Alors merci pour être venu.
Voilà.
Et vous avez remarqué que Christophe Cessieux lutte contre la canicule. Hein. Vous entendez son ventilateur depuis le début. La soixantaine est passée. Il faut faire attention. Évidemment, le camion RMC sera climatisé sur le Tour. Ne vous inquiétez
j'espère,
pas.
J'espère.
Il sera au rendez-vous de l'intégral Tour. À suivre également votre radio du Tour de France. Téléchargez votre application
RMC. Il fait trop froid. Jérôme Coppel, il fait trop froid. Et Christophe Cessieux qui dit on crève de chaud. On a hâte d'y être.
Il va faire trop chaud. Ouais. Et Pogacar va gagner.
Et en plus, Georges qui nous dit le Tour de France, ça va être complètement merdique. Ah oui, Pogacar va gagner dès la première étape.
Ah bah d'accord.
Franchement.
Ah bah c'est sûr qu'avant Roland Garros, par exemple, on n'a pas dit que Sinner allait gagner. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ah bah il n'a pas gagné. Et voilà, peut-être que j'appelle comme ça pour qu'il se passe quelque chose. Allez, rejoignez le peloton RMC sur Instagram. Merci.
Le peloton RMC.